Bezrat Hashem, aujourd'hui on va continuer, on va terminer le cours dans lequel nous étions déjà concernant le travail, le service du divin en Eretz Israël, et nous passerons Bezrat Hashem au cours suivant si nous terminons Bezrat Hashem. Nous étions arrivés à la faute des explorateurs qui avaient parlé du mal d'Eretz Israël, que leur conclusion concernant Eretz Israël était des conclusions hâtives qui supposaient qu'on ne pouvait pas vivre sur cette terre. Et le Rav Harlap Zatzal nous explique qu'en réalité, la faute provient du fait que les explorateurs, malgré leur grandeur d'homme, leur grandeur d'âme, s'étaient occupés, préoccupés de la facette, de la face extérieure, superficielle de la terre d'Israël, n'avaient pas vu le secret de cette terre, c'est-à-dire la partie intérieure, la partie cachée. Et on avait expliqué que certaines personnes se posaient la question pourquoi en dehors d'Eretz Israël, apparemment on sent plus lorsque nous étudions la Torah, lorsque nous faisons les mitzvot, plus qu'en Eretz Israël. Là aussi le Rav dit, parce qu'en réalité, c'est pas qu'il ne se passe rien en Eretz Israël ou qu'il se passe moins, mais le fait de ne pas ressentir provient tout simplement parce que nous sommes montés de niveau. Lorsque tu montes de niveau, tu dois arriver à une sensibilité beaucoup plus fine pour sentir les choses. Plus tu es bas, plus les choses sont grossièrement ressenties, plus tu te développes, plus tu intériorises et tu atteins des degrés supérieurs, on demande de toi une finesse de ressenti, des sentiments beaucoup plus délicats pour arriver à appréhender, à comprendre les secrets de la terre d'Israël. On passe à la partie de la moitié du texte à peu près. בכל הצעדים שצועדים ודורכים בארץ ישראל צריך להרגיש שדורכים על אדמת הקודש שלנו. Le Rav conclut, pour ne pas tomber dans cette erreur des explorateurs, que dans tous les pas que nous faisons en Eretz Israël, que ce soit des pas physiques, c'est-à-dire que l'on marche, mais en même temps des pas spirituels, lorsqu'on avance en Eretz Israël, il faut tout le temps sentir, il faut arriver à se ressentir, que nous marchons, que nous avançons sur la terre du Saint, béni soit-il, qui nous a donné. Je retraduis, je vous rappelle, Admat HaKodesh, pas la terre sainte, mais la terre du Saint. Adama Shel HaKodesh, pas Adama HaKdosha, pas la terre sainte. Donc il faut qu'on arrive à ce degré de comprendre. Peut-être le mot comprendre n'est pas juste parce que on ne peut pas comprendre. C'est au-delà de la compréhension humaine. C'est un degré de vécu. Et c'est pour ça que par le rationnel, on ne peut pas arriver à comprendre, à toucher la valeur intérieure d'Eretz Israël. Je vous rappelle les phrases du Rav Kook concernant Orot dans Eretz Israël. Les premiers mots, Eretz Israël einena davar chitzoni, la terre d'Israël n'est pas quelque chose d'extérieur, kinyan chitzoni la uma, et donc beshum haskala rationalit enoshit, dit le Rav Kook, avec aucune force du rationnel humain, on ne peut arriver à toucher, à comprendre le secret de cette terre. Keshem shetfilin asurim behesech hadat, et là le Rav va monter de niveau, il passe une vitesse. De la même manière que les tfilin sont interdits behesech hadat, on n'a pas le droit de penser à autre chose lorsque nous avons les tfilin sur nous. Vous savez, quand vous avez les tfilin sur vous, vous devez avoir tout le temps, okay, la prise de conscience que vous avez les tfilin sur vous, à tel point que les sages nous disent de les toucher de temps en temps. Pourquoi on les caresse de temps en temps et on embrasse? Pour avoir la conscience d'avoir constamment cette valeur immense que représente les Tfilin sur nous. De la même manière, dit le Rav, « Kach Eretz Yisrael Asura Behesechadat » Tu dois arriver à ce même niveau concernant la terre d'Israël, ne pas oublier un instant que tu marches sur cette terre, que tu vis sur cette terre, que tu penses à cette terre, et ainsi de suite. C'est-à-dire une comparaison entre les Tfilin et la terre d'Eretz Israël. Pourquoi tu dis physique? C'est marcher, une pensée.
Marcher sur la terre.
Penser la terre, vivre la terre. Tu peux mettre les Tfilin et avoir un film dans ta tête qui n'a aucun rapport avec les Tfilin, on est d'accord?
Non, mais je pense aux Tfilin, mais je pense aux boîtes noires.
Non. Non, non. Penser aux Tfilin, c'est penser que tu es en train de te lier à Kadosh Baruch Hu, à tout ce qu'il représente par cette mise des Tfilin. Tfilin, la traduction du mot Tfilin, au singulier, c'est quoi? Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire Tfila? Non. Pas prière, sinon je ne vous aurais pas posé la question. Okay. Tfila, ça vient du mot Tfila, ça vient du mot relier, se relier à. Quel ptil? Vous connaissez le ptil trelet? Ptil. Ptil, non, c'est une mèche. Ptil, ptila. Ptila, c'est la mèche. La mèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est le lien entre la flamme et la bougie, ou l'huile. D'accord? La tfila, c'est la même chose. La racine, c'est ptil. C'est une mèche qui relie en fait la lumière à ce monde. Ça veut dire que l'action de ce qu'on appelle usuellement la prière, c'est de relier les mondes en fait. C'est de demander, faire un lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Les Tfilin, c'est ce que ça fait. C'est une dérivée de Tfila. Au pluriel, Tfilin, pas Tfilot. Mais Tefilin, au masculin, alors que le singulier est Tefila, et encore, pour savoir faire le lien des choses. Lorsque je pose les Tefilin sur moi, si je n'ai posé que des boîtes noires en cuir sur ma tête, ce n'est pas à ça qu'il faut penser. Il faut penser à l'action de se relier à Kadosh Baruch Hu par cette mitzvah des Tefilin. Quand je marche en Eretz Israël, et même si je ne marche pas en Eretz Israël, le fait même d'être en Eretz Israël, tout simplement, ça demande une concentration permanente, une prise de conscience où tu es et où tu vis. Bien, là, il y a un degré supérieur que le Rav nous pousse, bien entendu, qui est très difficile à réaliser, mais il nous pousse à penser dans ce sens-là. Alors, on pense qu'en réalité, nous sommes à l'endroit qu'il faut que l'on soit, qu'Akadosh Baruch Hu nous a prévu cet endroit, qui nous appartient, qui nous l'a donné. Et là, je peux en fait dévoiler le divin de la manière la plus réussie possible et imaginable.
Toi, tu patriotises comme ça?
Ça, tu peux le traduire comme tu veux, ça fait partie aussi. Le patriotisme fait partie de ça, oui. Il n'y a pas de honte à être patriote et avoir un orgueil national, bien entendu, tu as raison. Okay? Sur cette terre, on peut le faire. Et donc, jusqu'où il faut monter? Regarde, tu vois, tu as pensé, il dit exactement les paroles que je viens de te dire. Jusqu'à arriver au sommet de l'orgueil du peuple d'Israël, de vivre sur cette terre et d'avoir reçu cette terre, et de se battre pour cette terre s'il le faut. Az natrile argish ki lefi midat gedulatenu, gadlutenu, veitronenu. Jusqu'à ressentir que par rapport à la grandeur de notre âme, veitronenu al kol ha'amim i efshar lanu leityashev be'eretz acheret. Conclusion du Rav, tu dois arriver à cette compréhension, au-delà de cette compréhension, au vécu de ce que je suis en train de te dire, jusqu'à la conclusion inverse des explorateurs. Je ne peux pas vivre en dehors de ce lieu d'Eretz Israël. Ça, c'est la conclusion du Rav. Si tu conclus cette conclusion-là, si tu arrives à cette conclusion dans ta vie, tu as déjà franchi une étape très importante dans la vie du peuple. Donc, je ne peux pas, il est impossible pour moi de vivre ailleurs. Qui im be'eretz Israël, si ce n'est sur cette terre, Eretz Israël, shegvoha mikol ha'aratzot, qui est supérieure, qui est plus élevée, qui est plus haute, dans tous les sens du terme, élevée en Torah, élevée en lumière, et élevée physiquement de toutes les terres, de toute la planète. Ve'en anu yecholim li'ired mimadregato, et on n'a pas le droit, on ne peut pas descendre de ce niveau-là, ou le'ishtamesh belashon acheret, et utiliser un autre verbe, un autre langage, Zulati bisfat kochenu, je dois arriver aussi à m'exprimer dans le langage qui correspond à cette terre. Autrement dit, pas ce que je suis en train de faire maintenant devant vous. Mais parler Lashon HaKodesh. De la même manière que Eretz HaKodesh, Admat HaKodesh, de la même manière, Lashon HaKodesh, le langage du Saint béni soit-il, lui aussi c'est celui qui doit gérer ma vie. Donc je dois penser en hébreu, rêver en hébreu, étudier en hébreu, comprendre les choses en hébreu, et vous voyez combien de mal nous avons à chaque fois parce qu'il faut traduire chaque chose.
Sinon.
Okay? Sinon, je n'ai pas compris.
Il y a des gens qui vivent des années et des années. Tu apprends
l'hébreu, tu apprends son hébreu. Il y a un problème, c'est que l'étude est un tout petit peu à côté. Un peu beaucoup.
C'est une tromperie,
bien sûr. C'est une trahison. Okay? La traduction est une trahison. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es obligé de fermer le mot qui est exprimé en hébreu, qui est l'infini, par un terme en français, en anglais ou en espagnol, ce que tu veux. Okay? Et ce terme-là, en réalité, te ferme complètement la compréhension. Moralité, tu as enfermé la Torah dans une boîte. Ça limite toute la Torah, toute la valeur, ça rend la Torah naine et ça n'a aucun sens au niveau profond, c'est-à-dire que l'étude ne peut pas se faire à ce niveau-là, bien entendu. Ok.
Nous, nous sommes montants de Israël, nous sommes de Israël.
Oui.
Est-ce que justement il n'y a pas des différences entre nous et ceux qui sont nés en Israël qui ont vécu avec la langue?
Mais vadaï.
Est-ce qu'on peut, nous, arriver à les rattraper?
Oui.
Arriver à ce niveau-là d'avoir la compréhension qu'eux peuvent avoir, ou est-ce qu'on sera toujours enfermé dans notre langue et dans notre...
Ça dépend comment tu réfléchis. Ta question est, est-ce qu'un jour, nous qui sommes montés de France, on va arriver un jour à comprendre, à entendre, à approfondir comme ceux qui sont nés ici, qui ont vécu ici? La réponse, peut-être pas toi, mais ton fils. Ça suffit déjà pour que ce soit valable. Il ne faut pas réfléchir en termes de judaïsme à moi. Donc si ce n'est pas moi, c'est mon fils, et si ce n'est pas mon fils, c'est mon petit-fils. Ça veut dire que je dois arriver à un degré où, de toute façon, je suis en train de construire, je suis en train de travailler dans ce sens, je fais les efforts nécessaires pour arriver. Si tu peux le faire toi-même, la malo, au contraire. Mais pour ça, il faut vraiment travailler pour arriver à étudier dans la source des choses. Car l'étude dans la source n'a aucun rapport, okay? Vous pouvez vous imaginer combien c'est loin d'étudier en hébreu, proche du texte initial, et une traduction qui va vous amener là où le traducteur, où la pensée, la limitation de la langue, et ainsi de suite, celle qui va conduire en fait à une limitation de la pensée. C'est une question de beaucoup de travail. Okay. D'apprendre, de réapprendre les règles, c'est de l'étude de la Torah. C'est comme ça qu'il faut arriver à faire. C'est un travail, c'est vraiment un investissement, parce que la Torah s'étudie dans sa langue, dans sa source. Et on a une mitzvah d'étudier les choses aussi proches que possible de la source. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient en Eretz Israël aussi, puisque c'est une terre qui est proche de sa source, de la source divine, car le lien entre le divin et les hommes se passe ici. C'est là où il y a le point de rencontre. Comme nous avons vu dans la paracha de cette semaine, Vezé, Shahar, Shamaim, Yaakov dit clairement, c'est ici que la porte du ciel se trouve. D'autres questions? Ok. Ubizman sheit orerut letriot, elu, ba me'argasha pnimit, begdulatenu. Au moment où toutes ces résurrections de mort, vous voyez que le Rav ici utilise la résurrection des morts, pas seulement pour ceux qui se lèvent de la terre, mais tout toutes ces résurrections, la résurrection de la langue, la résurrection du peuple qui revient sur sa terre, qui est considéré comme mort à l'extérieur de sa terre et qui revit lorsqu'il vient. Je vous renvoie à la référence bien connue de Yechezkel 36, qui compare l'exil à un tombeau. Et lorsqu'on rentre à la maison, qu'on revient en Eretz Israël, on sort de ce tombeau. Je vous sortirai de vos tombes. Je vous ramènerai sur votre terre et vous allez vivre. Donc Eretz Israël s'appelle Eretz Achaim, la terre des vivants. Le langage, donc l'hébreu, est une langue pas seulement vivante, mais la langue de la vie, beaucoup plus fort. En parlant l'hébreu, tu amènes de la vie dans ce monde. En t'exprimant dans ce langage du divin, tu conduis toi-même le divin à se dévoiler de plus en plus dans le monde. Et donc c'est très important. Nous sommes associés au remplissage du monde de la lumière divine. Je répète, c'est la clé de tout ce que nous faisons. Nous sommes associés du remplissage de toute cette planète de la lumière du divin. Par tous nos moyens, par notre langage, par nos pensées, par nos ressentis, par nos actes, tout ceci vient ramener encore plus et plus de lumière dans ce monde. Et plus la lumière remplira ce monde, plus le noir et les ténèbres, la tristesse, la mélancolie, les maladies vont disparaître. Donc ça dépend de nous. Si on veut le faire au niveau le plus élevé, alors l'un de ces niveaux-là, c'est de parler Lashon HaKodesh, étudier en Lashon HaKodesh, autant que possible. Okay? Donc il y a beaucoup de résurrection des morts. Ne vous coincez pas dans une résurrection des morts au niveau le plus simple. La résurrection des morts embrasse beaucoup de sujets. Cette résurrection vient lorsque tu commences à sentir combien tu es grand. L'homme qui se sent petit ne peut pas arriver à cet orgueil national. Encore une fois, je reviens aux explorateurs. Les explorateurs ont dit d'eux-mêmes qu'ils étaient kechagavim, comme des sauterelles. Okay? Parce qu'ils se disaient, cette terre est une terre de géants. Il faut être un géant pour vivre ici. Je vous traduis avec des termes modernes qui, peut-être, vous avez déjà dit, ou vous avez entendu dire, okay, pour vivre en Israël, il faut être très fort. Ils sont tous trop forts pour moi ici. Okay? On ne peut pas s'y faire ici. Là-bas, c'est facile. En dehors d'Eretz Israël, c'est beaucoup plus facile. Ici, c'est trop dur. Traduction de la Torah, c'est une terre de géants, donc c'est trop. Et par rapport à tous ceux qui sont ici, je ne pourrai jamais réussir, pourquoi je suis une sauterelle. Okay? Et c'est ce que disent les explorateurs. Vechen haïnu b'enem, c'est ce que je rajoute la Torah. La Torah nous dit, toi tu t'es vu comme une sauterelle, c'est exactement comme cela que tu étais aux yeux des habitants. Parce que comme toi tu te considères, c'est comme ça qu'on te considérera. Si tu te considères comme un petit, les gens vont te voir comme être un petit. Si tu sais que tu es grand et tu commences à grandir de toi-même, à te respecter, les gens vont te respecter autour. Okay. Alors il y a des moments où il faut être anav. Okay. Et il y a des degrés où il ne faut pas ce genre de anava. Ce n'est pas de la anava, c'est de la shiflout. C'est un autre terme en hébreu. C'est-à-dire, tu deviens... en langage moderne hébraïque, un smartout, c'est-à-dire une éponge, une serpillière. Voilà. Exactement, exactement. Donc, il faut faire très attention. L'homme modeste, c'est pas celui qui te dit ah non, je sais pas, qui joue. Okay? C'est un jeu, ça. Ça n'a aucun rapport avec ça. Le modeste, c'est exactement où il se trouve, quelle est sa valeur. Mais, et c'est là le mais. C'est le seul mais d'ailleurs. Toute cette valeur que j'ai, je sais de qui je la tiens. C'est tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné cette puissance-là. C'est pas moi. Mais je peux savoir où je suis. Je peux savoir quel est mon niveau.
Au niveau de la stress,
il faut pas être modeste. Donc la faute des explorateurs était de considérer qu'en réalité, il n'avait aucun rapport avec ce lieu. Donc sortir Dieu du film. Dieu n'est pas dans ce film. La preuve, c'est que lui m'a dit de venir ici, mais les explorateurs disent non, on ne peut pas. Veromemuto az hen triot amitiot. Donc, dit le Rav, si tu veux que tes résurrections au pluriel soient vraies, de vraies résurrections, il faut que toutes ces résurrections soient liées, reliées, accompagnées d'une fierté de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné pour être ici. D'utiliser ta langue maternelle, donc l'hébreu, d'utiliser tes puissances en Eretz Israël, ta sagesse en Eretz Israël, tes qualités, tes capacités, ton argent, tes biens, tout ce que tu peux développer, développe-le ici. Az hen triot amitiot nekiot mikol sig upgam. Alors ce sont de vraies résurrections qui sont nettoyées de toute influence et de toutes petites choses qui sont des salissures qui sont à côté, des copeaux, sans dire des résidus de lumière qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah des klipot, ou des sigim. Donc tout ce qui se fait à l'extérieur est toujours accompagné de ces sigim, de ces klipot, alors que tout ce qui se fait en Eretz Israël est beaucoup plus limpide, beaucoup plus propre, car Eretz Israël aussi te protège de ce mélange avec autre chose.
C'est quoi l'autre chose? C'est-à-dire quoi l'autre chose?
Autre chose, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose, par exemple, que tu vas faire une certaine mitzvah. Si cette mitzvah, elle est pure, elle est dans son sens réel, alors tu es 100% dans la mitzvah. Mais s'il y a beaucoup d'informations extérieures à cette mitzvah, que tu es obligé de respecter l'état dans lequel tu es, alors c'est accompagné par beaucoup de choses qui t'enlèvent la capacité de faire les choses. Je vais donner un exemple très simple. Chas v'shalom, quelqu'un qui quitte ce monde en chutz la'aretz, ça peut durer 10 jours, son enterrement, une semaine, 5 jours. S'il est mort dans le week-end et que c'est un week-end férié, tu peux monter, descendre, il n'y a rien. Alors que la Torah nous dit que l'enterrement doit être le soir même. On n'a pas le droit de laisser le mort une nuit sans être enterré. Donc en Israël, peu importe quel jour c'est, tout le temps, ça ne va pas durer. Ok?
Par Shabbat?
Non, même Shabbat, on enterre avant Shabbat. Et si c'est pendant Shabbat, c'est Motzaï Shabbat, donc il n'y a aucune nuit. Okay? Et Shabbat lui-même n'est pas considéré comme un jour. Donc moralité, tu veux faire une mitzvah, mais tu es obligé de respecter les lois du pays. Donc, la mitzvah est accompagnée de résidus qui sont et négatifs pour le mort, okay, et négatifs pour Chas v'shalom, tout ce que représente le degré de sa neshama.
Ok. Pardon, entre parenthèses, on doit enterrer le soir même. Pourquoi? Okay. Parce que la neshama reste entre les deux mondes.
Parce que la neshama, d'abord, ne peut pas se libérer, et deuxièmement, parce que le corps reste vide de cette neshama. Et si la nuit tombe, il peut rentrer dans ce corps d'autres degrés qu'on ne veut pas. C'est un squat. Le corps vide peut être squatté par d'autres degrés. C'est pour ça qu'il faut lire autour du mort pour empêcher toutes ses forces. Donc ça fait comme une barrière qu'on appelle dans la Kabbalah Or Makif, une lumière entourante qui protège le corps pour ne pas que rentre, que pénètre des éléments étrangers à ce corps.
Okay.
Nachon. Alors il y a aussi, c'est un degré, l'un des degrés, la Gemara discute de ce que tu dis dans Ketubot, dans d'autres livres, que celui qui est enterré en Chutz La'aretz, qui est déterré pour revenir en Eretz Israël, ça aide sa neshama, en tout cas son corps, pour Triat HaMetim. Donc on lui prépare la résurrection des morts d'une manière beaucoup plus facile. Il y a des discussions que ce n'est pas aussi simple, il vaut mieux vivre ici et jusqu'à 120 ans quitter le monde ici en Eretz Israël, parce que les sages, certains de nos sages nous disent, vous êtes venus rendre ma terre impure, je voulais que vous soyez ici vivants et vous m'amenez des morts. Amenez-moi des vivants. Donc la terre d'Israël préfère avoir des vivants, des jeunes comme vous, Bliainara, qui vivent, qui viennent, qui savent se battre pour cette terre et aimer cette terre. Donc il vaut mieux venir vivre ici que d'amener des corps.
Justement, on a toujours dit que des gens vivent en Israël et on fait tout pour ça, que des gens vivent en Israël. Est-ce qu'on a aussi envie que de nos morts qu'on a laissés en plus la reste.
Okay. Nachon. Alors, il y a une. Nachon. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Malgré tout, il faut les amener. Okay. Je continue. Keshem Shekol Birkat Umatenu. Birkat Am Israël, hi Bezman, Sheyodea Umargish Beitrono Al Kola Ami. Dit ici le Rav, toute la bénédiction de notre peuple d'Israël vient, est accompagnée par la connaissance et le ressenti de la valeur supplémentaire que nous avons. C'est-à-dire que nous sommes conscients de ce que nous faisons ici, pourquoi Dieu nous a créés différents, quelle est notre spécificité en tant que peuple d'Israël par rapport aux autres peuples. Encore une fois, pas meilleur ou pire, chas v'shalom, il n'y a pas ce genre de langage dans la Torah. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous avons un autre degré, un autre travail. Donc, on nous demande, en fait, de vivre selon notre degré. C'est aussi une responsabilité. C'est pas seulement tu as reçu quelque chose, un bonbon. On t'a donné une responsabilité. Il est plus facile de ne pas être Israël que d'être Israël. D'ailleurs, quelqu'un qui veut se convertir, on le persuade de rester ce qu'il est. C'est dommage. Tu es bien sûr que tu veux devenir Israël parce que c'est pas évident. Il va falloir que tu aies beaucoup de niveaux supérieurs, que tu acquiesces, que tu changes ta manière de vivre. Et tu vas être jugé comme Israël. Est-ce que tu es bien sûr de ta démarche? Donc ici, le Rav nous dit que ça c'est la bénédiction. C'est de savoir notre identité. Qui nous sommes, ce que nous sommes venus faire. Et la bénédiction, on l'a dit, « Ata bechartanu mikol ha'amim » « Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisis » de parmi les peuples, Asher Bachar Banu Mikola Amin, qui nous a choisi de parmi les peuples, ou Bisman Sheu Shocheach Godlo, et si Chas V'Shalom, tu arrives un jour à oublier ta valeur, à oublier ta grandeur, Vegeono, et ta splendeur, ton identité, qu'Akadosh Baruch Hu t'a réservé une identité extraordinaire, Enlo Meuma. Dit le Rav, cet homme-là qui perd ce degré-là, perd tout. Il n'a plus rien. Autrement dit, si tu as perdu ton essence Israël, si tu ne veux pas vivre selon cette essence, si tu ne ressens pas cette fierté de ta nation, et la responsabilité qui en déduit, qui en découle, tu n'as rien. Tu as tout perdu. Vezeu kol galuto. Et voici, dit le Rav, le secret de l'exil. Qu'est-ce que c'est l'exil, donc? C'est la perte de l'identité du peuple. Lorsque le peuple a perdu son identité, qu'il ne sait plus qui il est, alors on l'envoie faire un stage, on le descend de niveau. Okay? Vous connaissez les Hakbatsot en hébreu? Si tu es un bon élève, tu es en Hakbatsa Aleph. Okay? Tu es un peu moins bon élève, on te met en Hakbatsa Bet. Si tu es encore vraiment un mauvais élève, on te met en Hakbatsa Gimel. C'est la même chose. En Eretz Israël, nous sommes en Hakbatsa Aleph. Mais si Chas V'Shalom le peuple, Smellah, si en Eretz Israël, tu n'arrives pas à vivre à ce niveau-là, en fait, on te fait descendre pour vivre un peu plus au niveau de l'extinction des feux. On te donne moins de lumière. Donc on va te mettre dans le gris de l'exil et pas dans la lumière des Retisraël. Et là-bas, dans le gris de l'exil, un tout petit peu de lumière va déjà apparaître comme beaucoup.
Mais si on doit vivre ici, pourquoi aller là-bas? Pourquoi me faire forcer d'aller là-bas?
Parce que c'est là-bas où tu dois réapprendre ce que tu as perdu ici. En restant ici, tu ne vas pas pouvoir réapprendre qui tu es. La lumière est trop forte pour toi. C'est comme si je disais à un élève... Fais des efforts, tu restes en Hakbatsa Aleph. Il dit, mais je ne comprends rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met en Hakbatsa Bet. Il va réapprendre tout à la base pour remonter un jour en Hakbatsa Aleph. Son but, c'est de ne pas rester. Okay? C'est de remonter. C'est ce qui nous est arrivé dans l'exil. Malheureusement, certains ont pris goût dans la Hakbatsa Bet et guillemets et ne veulent jamais revenir dans la Hakbatsa Aleph. Ils ont oublié qu'en réalité, ça doit être de bons élèves, mais ils sont restés là-bas.
Donc c'est facile pour
leur dire,
plaisir, je reste là-bas,
parce que
je suis petit.
Nakhon, il y a affaire. Nakhon, tu as raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir en termes individuels, mais en termes de collectif Israël. Et c'est ce qu'Abraham a reçu comme ordre, et sera le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple, une grande nation, pas un grand homme. Et aujourd'hui, la nation d'Israël, qui est revenue sur sa terre, même s'il y a encore des gens petits, par-ci et par-là, la nation en elle-même est une grande nation. Et les hommes, les planètes, okay, et tout ce qu'il y a dans ces planètes, et la terre, avec tous les peuples qui y résident, respectent le peuple d'Israël pour ce qu'il est. Même si ça se traduit par des guerres. C'est parce qu'il y a un grand respect pour ce que nous représentons dans le monde. Il faut savoir être conscient de cela. Ken kol dayare Eretz Israël. De la même manière, tous ceux qui habitent en Eretz Israël, qui ont une dira en Eretz Israël, qui ont une maison en Eretz Israël, une habitation, peu importe où ils sont, même en location, ça s'appelle une dira en Eretz Israël, même au Machon Meir, vous avez une dira en Eretz Israël, puisque vous avez des champs. En laem lishkoach ma'uzam. Nous dit le Rav, faites attention, bien que vous soyez déjà là, ne vous endormez pas. Okay? Ne vous perdez pas, n'oubliez pas votre identité. Vetif artam, donc n'oubliez pas votre puissance, n'oubliez pas votre énergie, votre force, votre tiferet, votre gloire, votre splendeur. Ve'elyonutam, et votre supériorité. Alkol Yoshvet Tevel sur tous les habitants de la planète. C'est-à-dire, vivez votre niveau à son vrai niveau. Et là, il faut avoir de la gaava. C'est-à-dire, il faut avoir un orgueil dans ce sens-là. Ce n'est plus un orgueil individuel, mais l'orgueil de la nation d'Israël, qui est en réalité, ni plus ni moins, que la représentation de Dieu dans ce monde. Puisque c'est cela que nous sommes venus faire, représenter Dieu dans ce monde. Moralité, cet orgueil est un bon orgueil. Distribuez la feuille suivante, s'il vous plaît. Toda. Et là, nous arrivons à un autre degré. Haratzon le lamed zchut. Notre désir de trouver les bons points chez l'autre. De ne pas casser l'autre. Yeshuat Israël, dit le Rav, la rédemption d'Israël, la délivrance d'Israël, tluya beikar beratzon yishrei lev. Dépend essentiellement de la volonté de ceux qui ont le cœur droit. Les lamed zchut à l'Israël. Qui sont ceux qui ont le cœur droit? Ceux qui savent tout le temps trouver les bons points chez son frère Israël. Sheben im mechavnim el haemet belimud zchutam ou ben im eina mechavnim el haemet. Parce qu'en essayant de trouver les bons points chez l'autre, même si tu le fais par conscience ou inconsciemment, al kol panim, malgré tout, peu importe pourquoi, megalim hem baze et retzonam apnimi ve'aslachatam ve'romemutam shel Israël. En réalité, c'est un élan positif et sain que de trouver les bons points chez l'autre. Pourquoi? Parce que tu prouves à l'intérieur de ton esprit que ton seul but, c'est de faire grandir ce peuple qui dévoile la lumière de Dieu dans ce monde. Donc si tu es animé par cette flamme, de toujours trouver les bons points chez l'autre, ça veut dire qu'en réalité tu veux que l'autre réussisse. Et pourquoi l'autre réussirait? Tout simplement parce qu'on fait partie de la même équipe qui dévoile Dieu dans le monde. Donc je n'ai pas à casser l'autre, j'ai à trouver chez lui les bons points pour le faire monter, pour dévoiler cette lumière divine avec moi. Okay.
On disait qu'on a perdu le deuxième des familles d'âge par la Sénat
Finam. D'accord.
Et on va retrouver le troisième des familles d'âge dans le film de Karov.
Amen. Nahon. Nahon. Alors ça fait partie de cela. Okay? La haine gratuite a divisé le peuple et a conduit à l'exil. Donc on est sorti en exil pour réapprendre à nous aimer. Donc lorsque le peuple commence à s'aimer, ça peut durer 2000 ans. C'est d'ailleurs ce que ça a duré. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il peut revenir à la maison. Et là, on est tous jetés dans un bain qui s'appelle Eretz Israël, et on doit apprendre maintenant à vivre cet amour réellement. Pas facile, non? On se bat, mais on doit arriver à se battre contre des idées, mais pas contre des hommes. Il faut que j'aime mon prochain, même si je n'aime pas ce qu'il fait. Et ça, c'est la Hatzlacha, Veromemutam chez l'Israël, ou Mise Ba Yeshua. Donc la délivrance viendra par les bons points que je pourrais voir chez l'autre, chez mon frère, chez mon voisin.
D'ailleurs, est-ce qu'il faut se battre contre les idées ou plutôt défendre ses idées?
Alors, il faut défendre ses propres idées. Okay? Donc tu peux avoir une idée avec laquelle tu n'es pas d'accord. Mais l'homme qui est à l'intérieur, lui reste un homme d'Israël, ton frère Israël, que tu dois aimer, que tu dois respecter, même si sa chita, son dévoilement, son vécu est différent du tien. J'ai compris ta question. Ça ne sert à rien d'aller se battre contre une idée, mais défends la tienne et présente-la.
Oui, quelque part, c'est vouloir annuler une idée.
Tout à fait. Tout à fait. On n'annule pas l'autre idée, mais on permet à l'autre idée de s'accoupler avec la mienne pour former le shalom.
La délivrance, c'est qui?
La délivrance viendra dans le peuple d'Israël grâce à ce travail-là de trouver les points communs qui nous unissent à tous et qui nous font avancer parce que finalement nous sommes comme un corps avec des membres. Okay? On n'a jamais vu une main droite qui coupe une tomate à la cuisine et qui sans faire exprès coupe la main gauche. On n'a jamais vu la main gauche se dire « Ah, c'est comme ça, tu vas voir ce que je vais te faire. » Elle prend le couteau et elle coupe la main droite. Okay? Le mec, on l'enferme immédiatement dans un hôpital de fous. Maintenant, si vous élargissez ce qui vous fait rire maintenant, au niveau de la nation, c'est exactement pareil. Le type qui ne me représente pas, apparemment, qui ne me ressemble pas, qui vit selon une autre chita que moi dans le peuple d'Israël, c'est comme une autre main. Et si je sors en guerre contre lui pour lui couper la main, et que lui sort en guerre contre moi pour me couper la main, on est en train de couper les deux mains d'un seul et même corps. Il y a un problème. Oulam, bezman shishre halev shochrim et achova hazot. Et si chaz v'shalom par mégarde, ceux qui ont le cœur droit, comme nous les avons définis tout à l'heure, comme le Rav les a définis, oublient cette obligation, cette nécessité de trouver les bons points chez l'autre. Et il commence à dire du mal de tout le monde. Il y a des cours de Torah comme ça, qui tapent sur tout ce qui bouge. Tout ce qui n'est pas comme lui, c'est pas bon. Et tout le temps dans leurs cours, ils parlent du mal du peuple, que le peuple ne mérite pas d'être délivré, parce que regarde ce qu'ils font, ils ne font pas si. Ils n'observent pas le Shabbat. Donc, le Mashiach ne vient pas. En réalité, c'est ce qui se dit. Sans le dire, mais c'est ça. Alors, au lieu de trouver les bons points chez l'autre, tu casses tout le temps. Harei bazehem megalim et ir et sonam beishuatam amitit. Dit le Rav, quelque chose de terrible. Ce sont des hommes, malgré leur grandeur, qui en réalité sont en train de prouver qu'ils ne veulent pas la délivrance pour le peuple d'Israël. Parce qu'il est impossible de casser son propre peuple alors que nous devons parler du bien. Nous devons être des avocats de ce peuple pour que Dieu nous délivre.
Ken. D'ailleurs, vous disiez qu'on pensait à un homme avec ses deux mains.
D'accord.
Quand on a un problème à un doigt,
Ken.
Avant qu'il contamine la main, les bras et tout, il faut bien faire quelque chose.
D'accord. Tu as raison.
Alors, c'est l'autre main qui va faire quelque chose.
Tu as raison. Ça veut dire que tu dis qu'il y a des moments où il faut couper un doigt. D'accord ? C'est ce que tu es en train de dire. Okay. Alors, couper un doigt, c'est dans le sens du mal que cette personne fait, mais pas elle-même. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
Son mal.
Exactement. Je vais te donner un exemple très précis pour que tu comprennes. Un jour, tu vas avoir des enfants, Be'ezrat Hashem, et ton fils va te mentir. Est-ce que tu as le droit de le traiter de menteur ? Oui ou non ? Oui, s'il ment, tu as le droit de lui dire que tu es un menteur. Oui ou non? Oui ou non?
Oui.
Oui. Non. Chas v'shalom. Il y a une grande différence entre lui dire tu as menti et lui dire que tu es un menteur.
Ah oui.
Ah oui. Faites attention, parce que ça nous sort facilement. Tu es un voleur. Non, tu as volé. C'est pas pareil. Tu es un tricheur. Non, tu as triché. Si tu le rentres dans un tiroir pour qu'il commence à jouer le rôle de la définition que tu viens de lui donner, tu le tues. Donc il va devenir voleur. Il va devenir tricheur. Donc il faut qu'on fasse très attention. Donc je réponds à ta question. Il faut que j'enlève, que je sache faire le tri entre ce qui a été fait, qui est extérieur à l'homme, et l'homme lui-même. C'est-à-dire que je peux venir t'embrasser et te dire, écoute, je sais ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais toi, je t'aime. Je sais qui tu es. Ce n'est pas toi, c'est un acte superficiel, extérieur à toi. Là, tu as toutes les chances du monde de rattraper la personne. Mais si tu jettes le bébé avec les salissures qu'il vient de faire le matin, les deux à la poubelle, avec les couches, parce que tout sent mauvais, tu ne sais plus où est l'odeur, le plus facile, c'est de jeter le bébé. Avec la couche, directement à la poubelle. Ce n'est pas ce qu'on fait. Chas v'shalom, mais je vous donne des images qui sont des images réelles. Ce sont des expressions en hébreu, d'ailleurs. L'izrok et atinok yachadim achitoul. Quand tu ne sais pas gérer un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes tout. Non. Tu enlèves la couche, tu nettoies le bébé, tu jettes la couche, et le bébé est toujours le bébé. Il est toujours propre, il est toujours vivant, il est toujours là. On a une tendance, une fâcheuse tendance à jeter tout lorsqu'on ne comprend pas quelque chose parce qu'on n'arrive pas à faire les tri. Parce qu'on panique. Des gens donc, je reviens au texte, qui parlent du mal du peuple d'Israël, qui descendent le peuple, ou des parties du peuple, sont en réalité des accusateurs aux yeux de l'Éternel. Ils viennent comme des accusateurs du peuple. Dieu, ce peuple-là ne mérite pas d'être délivré. C'est ce qu'ils disent en fait. On n'a pas le droit de dire une chose pareille. Chas v'shalom, chas v'shalom, jamais. Au contraire, comment tu vas les détruire? Qu'est-ce que vont dire les nations? Et c'est un défenseur du peuple d'Israël. D'ailleurs, si tu accuses le peuple sans arrêt dans tes dires, en réalité c'est ce que tu dis sans le dire. Tu comprends ou pas? Si je dis, écoute, ce type-là, Binyamin, il vaut rien. Tu sais, je pense que ça sert à rien de lui donner la confiance que tu lui donnes. Parce que il va toujours te trahir. Je l'ai vu. Il fait que des bêtises toute la journée. Il fait du mal. Qu'est-ce que tu es en train de dire à la personne? Il ne mérite pas d'être aidé. Tu n'as pas dit les mots, mais c'est la même chose.
Non, mais en disant ça, ça nous bloque à nous aussi.
Mais va d'arrêt.
On dit qu'il veut pas la délivrance, mais c'est pour nous aussi, on l'aura pas alors, en ce cas-là.
Mais je parle que de ça. J'ai parlé de rien d'autre. C'est-à-dire quand j'accuse mon peuple d'Israël de quelque chose de mal, en réalité j'empêche tout le peuple, et moi y compris, d'avoir la délivrance, bien entendu. Il n'y a que de ça qu'on est en train de parler. Vezé atzmo gorem sha'aderech legilui haratzon bishuatam shel Israël tavo vetitgali al yedei drachim akalkalot. Alors là, le Rav dit, ça ne suffit pas. Ce qu'on vient de t'expliquer, c'est encore plus grave que ça. Parce que si tu es un accusateur chronique, tout le temps tu parles du mal de ton peuple, tout le temps tu parles du mal des Israéliens, tout le temps tu trouves à redire et tu râles, et tu dis ouais, les Israéliens ils sont comme si, les Israéliens et les Israéliens et les Israéliens. Okay? En réalité, tu es en train de te découper toi-même de la branche sur laquelle tu es en train d'être assis, et la délivrance ne peut pas venir par toi, parce que tu es un accusateur, donc devant l'Éternel, tu es en train de monter des couleurs négatives. Moralité, il va falloir rattraper tout cela par d'autres biais. C'est-à-dire des chemins qui ne sont pas très sympathiques. On va se battre entre nous, et il y a un troisième élément qui va venir, qui n'en a rien à faire ni de toi ni de moi, et qui va s'occuper des deux en même temps. Chas v'shalom, ça peut être une autre nation. Okay. Par le biais d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez bien. Lorsque les Romains sont entrés à Jérusalem avant la destruction du temple, deux Juifs étaient en train de se battre. Okay. Là, c'est la même chose. Le deuxième, c'est encore mieux. Les deux juifs se battaient, Shimon contre Lévi, et je te mets un coup de poing, et tu mets un coup de tête, et machin, et si, et tout. Et l'autre, il se dit, écoute Shimon, viens, on s'arrête, il y a les Romains qui arrivent. Il dit, non, tant que je n'ai pas fini avec toi, je te lâche pas. Vous avez compris la bêtise de la chose. Okay? C'est-à-dire, on est en train de voir un ennemi qui est en train de venir, qui n'en a rien à faire ni de Shimon ni de Lévi. Les deux, il va les mettre dans le même four. C'est pour ça que le temple a été détruit. Okay? Donc ça contredit ce que tu dis. Okay? Le temple a été détruit par la haine gratuite, malheureusement, parce qu'on ne savait pas se respecter. Tu as raison de réfléchir comme ça, c'est sain ce que tu dis. Mais ça a eu lieu dans l'histoire. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit que ça revienne.
Oui, mais il faut être en alerte, parce que c'est, des fois, ça peut y ressembler.
Nachon. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez discuter.
C'est malin, parce qu'on dit que le Machiav viendra de France, et justement, entre France, vraiment en France, il n'y a pas ce genre de différence entre courants. On a du mal à s'inclure dans ce genre de débat.
Donc, d'abord, c'est marqué nulle part que le Machiav va venir de France. Ce sont des explications et des commentaires.
C'est on dit.
Il y a plein de choses. De Belgique, chacun y défend où tu habites. Je peux même te dire de la rue. Ken, on te dit aussi qu'il va venir du nord d'Israël. Mais Arba Ruchot Boy Aruach. La Géoula, elle vient de tous les côtés, on ne sait même pas. Ça veut dire sois vigilant, ça peut venir de partout. Et à des moments où tu t'attends le moins. C'est-à-dire, il y a trois choses qui sont des metziot. Qu'est-ce que c'est une metzia? Une trouvaille. Les trois choses, dit la Gemara, c'est metzia. Donc, où? Nous, qu'est-ce qu'on peut trouver comme ça?
Un objet.
Un objet. Okay? Tu marches dans la rue, tu vois un objet que tu ne t'attendais pas à voir. Okay? La même chose, c'est la même chose, c'est un objet. Un or. Akrav, un scorpion, qui apparaît comme ça. Ou Mashiach. Très bizarre cette. Dans tout ça, ils ont conclu, les Chachamim ont conclu. Quel rapport? En réalité, c'est ou scorpion ou Mashiach, tu comprends. Lorsque tu ne sais pas te comporter avec l'autre par amour, il y a un scorpion qui peut venir aussi d'une manière inattendue, parce que tu es en train de te laisser. Tu te laisses aller.
Scorpion,
non, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est un scorpion, pas forcément un scorpion extérieur, mais un scorpion intérieur. Quoi?
Peut-être vouloir dire qu'il vient d'un pays où il n'y a pas de scorpion.
Ok, yeah. Si tu veux.
Ça n'enlève pas le fait qu'effectivement, il y a des...
Alors, encore une fois, je n'ai pas répondu à ta question. Tu peux discuter. Tu as le devoir de discuter. Tu as l'obligation de discuter, mais en aimant l'autre. Et ça, c'est très difficile. Et il faut faire le tri sans arrêt. Encore une fois, ne jetez pas le bébé avec la couche. Jetez ce qui ne vous plaît pas chez l'autre. Dites-lui, ça, je ne suis pas d'accord. C'est une expression, jeter. On ne jette rien, mais ça, je ne suis pas d'accord. Mais toi, je t'aime. Tes idées, je ne suis pas d'accord avec ces idées-là. Moi, je vais te donner mes idées. Toi, tu vas me donner tes idées. On va se battre. Moi, je vais défendre mon idée. Jusqu'au bout, je vais la défendre. Mais toi, en tant qu'homme d'Israël, tu es mon frère. Je suis capable de donner la vie pour toi, pour te sauver. Okay.
Il y a comme ça, il disait qu'on se construit soi-même en connaissant d'abord ses qualités.
Hein?
En connaissant d'abord ses qualités. Tout à fait. Maintenant, en même temps, si on dit jeter ce qui n'est pas bien chez l'autre, c'est pas faire ressortir ce qui est bon chez lui. Là, on nous demande apparemment même plus loin, c'est de ne voir que ce qu'il y a de bien chez lui pour ressortir.
D'accord. Pour répondre à la question dont tu as parlé tout à l'heure, tu m'as dit que ça peut venir de France parce que là-bas, il n'y a pas de machloket. Il ne risque pas d'y avoir de machloket là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État. Le seul machloket, c'est des questions individuelles de vie juive dans le détail de la halakha. Donc, aucun rapport avec l'État, avec un État.
Il pourrait y avoir des courants en France.
Pardon?
Il pourrait y avoir des courants.
Des courants de quoi?
Des courants de...
Qui parlent de quoi? De quelque chose dans lequel qu'ils ne vivent pas. Qu'ils ne vivent pas.
Dans la pratique. Il y avait discussion entre comment dire, il y a des chamans, pourtant il n'y avait pas d'État.
Tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Tant que l'État n'existe pas, okay, tu t'occupes de quoi? De halakha.
Il peut y avoir division là.
Halakha. Mais lorsque les choses deviennent au niveau de l'État, c'est-à-dire du peuple d'Israël sur sa terre, c'est plus des petites discussions de halakha dans la Gemara où tu es en train de te taper sur la table, tu dis non, là c'est des choses beaucoup plus grandes, c'est au sein du peuple. On a monté de niveau. C'est pour ça que les discussions sont beaucoup plus dures ici. Okay. Pendant 2000 ans, on n'avait pas d'armée. Donc qu'est-ce qu'on risquait? Si on attaquait un juif dans une autre ville, les juifs de cette ville allaient le défendre? Non. Ils se cachaient encore plus. Okay. On n'avait pas cette idée de l'amour global de mon peuple. Ce qui est le cas maintenant à partir du moment où on a un État. Ça veut dire qu'on est chacun de nous prêt à ne pas dormir la nuit, à aller défendre. Pourquoi? Parce que mon peuple est dans une détresse. On t'envoie avec une kita de Konenout dans un certain endroit. Tu rentres, tu es je ne sais pas quoi, dans quelle armée, mais tu es en train de défendre ta terre, ton peuple, ta nation, ta Torah, tout ce que ça représente. Ça change complètement. On a changé de niveau. Ok. Berifion la Torah va mitzvot. Donc le problème, c'est que lorsque la Torah et les mitzvot baissent de niveau, perdent leur niveau, dit le Rav, tout ça, ça va prendre forme dans ce qui va se passer juste avant l'avènement messianique, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'arrogance, beaucoup de refroidissement. Les gens vont perdre le moral. La connexion des choses, le da'at, va s'affaiblir. On n'arrive plus à faire les liens. Tout est en panique. Dans le monde entier, mais surtout dans le peuple d'Israël. Okay. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période, et cette période on la vit, okay, de cette arrogance, de ce doute qui est en train de s'installer dans tous les domaines, dans le manque de connexion des choses, on ne sait plus qui est en rapport avec quoi, comment gérer toute cette panique qui est en train de se développer. Et chacun est en train de se perdre un tout petit peu. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire le lien et comprendre qu'en réalité, ça fait partie de ce processus. En terminant juste, en disant que Yaakov Avinu, c'est ce qu'il a vécu lorsqu'il s'est battu avec l'ange. Il est resté seul. Il est resté seul, Vaivater Yaakov Levado. Nous disent les sages, c'est un grand moment de doute. Et là, il va falloir qu'il sorte toutes ses forces. Finalement, il a gagné. Nous avons un espoir, nous aussi, que nous allons finalement gagner ce combat. Amen.